Alors le texte qui est proposé pour ce dimanche, c'est Matthieu 5, 13 à 16. Alors comme vous connaissez bien la Bible, vous savez de quoi ça parle, surtout que c'est écrit. Nous sommes dans le sermon sur la montagne. Hein, pour ceux qui suivent les lectures régulières sur l'année, on a commencé le sermon sur la montagne dans l'évangile selon Matthieu. La semaine dernière, alors je ne sais pas si c'était ça ici, mais en tout cas la semaine dernière, c'était les béatitudes. Alors, à la fondation, c'est les P-attitudes, hein. Le pauvre, celui qui pleure, celui qui est placide, celui qui est persécuté, celui qui est pur, celui qui est dans la paix. Il m'en manque deux, c'est pas grave. Voilà, les P-attitudes. Et cette semaine, c'est celle de la terre, lumière du monde. Ça tombe bien, hein, puisque normalement, jeudi, vous avez fêté la Chandeleur. Vous avez mangé des crêpes. En tout cas, la fondation, dans tous les pavillons. La Chandeleur, c'est la fête des lumières, hein, des chandelles. C'est pour ça que ça s'appelle la Chandeleur. C'est en souvenir de la présentation de Jésus dans le temple. Alors, certains d'entre vous ont déjà tout entendu, hein, sur celle de la terre, lumière du monde. Il y en a peut-être même qui ont prêché sur ce texte-là ou qui ont déjà utilisé cette image d'être le sel de la terre et d'être la lumière du monde. Alors, je vais essayer d'apporter un éclairage différent, en tout cas de mettre mon grain de sel. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Deux éléments nécessaires à la vie. Le sel et la lumière. Je l'installe autrement. On ne peut pas vivre sans sel. Alors même ceux qui ont un régime sans sel, le sel est essentiel, hein, pour l'échange entre les cellules. Ça, c'est pour ceux qui font science nat. Hein. On ne peut pas vivre sans lumière. Et même si on est non-voyant, la lumière est nécessaire pour la vie sur Terre. Alors, c'est aussi vital que l'eau. Alors bien sûr, une eau potable. C'est aussi vital que l'air. Un air qui ne soit pas trop pollué. C'est aussi vital que le sommeil, ne pouvoir dormir dans des conditions calmes, loin des bruits de la ville, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alors quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre », il nous rappelle que nous sommes des êtres humains dépendants. Nous sommes vulnérables. Nous avons des besoins élémentaires, manger, dormir, respirer, être logé, avoir des vêtements. Sans ça, sans ce minimum-là, personne ne peut vivre. Tout cela nous rappelle que nous sommes des personnes dépendantes. Dépendantes des autres, du monde. Quand vous étiez bébé, vous avez été allaité par votre mère. Quand vous serez plus âgé, vous serez accompagné des personnes qui prendront soin de vous. Des gens qui répondent à nos besoins. Dépendant de la nature, de la terre, alors là, je n'ai pas besoin d'illustrer, hein, l'actualité nous rappelle chaque jour cette dépendance. Nous avons des besoins. Nous avons besoin. Nous avons besoin des autres et nous avons besoin qu'ils prennent soin de nous. Voilà, ça c'est la première chose. C'est la première chose que je retiens de la parole de Jésus. Nous sommes des êtres de besoin en attente. Alors, deux éléments fondamentaux. Jésus choisit « Vous êtes le sel ». Et vous êtes la lumière. Mais pourquoi ces deux éléments-là en particulier? Il aurait pu dire, vous êtes l'air du monde et vous êtes l'eau de la terre. Ça aurait été aussi joli, hein, ça fait un peu les cinq éléments après. Hein. À l'époque, c'était une expression commune, un peu comme, alors là c'est les plus anciens parce que les jeunes, je ne sais pas si vous connaissez, labourage et pâturage, sont les deux mamelles de la France. Là, les jeunes, hein. C'est pourtant essentiel. Labourage et pâturage, l'agriculture et l'élevage sont les deux mamelles de la France. C'est Sully, hein, Sully, alors ça, il faut le connaître quand même, hein. Sully, c'est à l'époque d'Henri IV. Hein, c'est au moment où la France avait des protestants à sa tête qui avait dit ça à Henri IV. À la fondation de John Bost, on a aussi notre adage, lieu de soins, lieu de vie, lieu de sens. Des mots qui ont du sens, qui font sens. Lieu de soins, alors ça c'est peut-être le plus évident, puisque les personnes sont soignées, il y a tout l'aspect sanitaire. Lieu de vie, c'est aussi l'aspect social. Les personnes sont logées, sont blanchies, sont nourries. Et lieu de sens, c'est toute la dimension éthique, le rapport à l'autre, et notamment la vie spirituelle à la fondation. Alors, le sel et la lumière. En latin, ça remonte là, hein, en latin, il y avait une expression toute faite, rien n'est plus utile que le sel et la lumière. Alors, je vous le fais en latin. Hein. Nil sole et sale utilius. Rien n'est plus utile que le soleil, bon, ils n'avaient pas des ampoules à l'époque, hein, et le sel. Ça claquait, hein. Alors, Jésus reprend un lieu commun. C'est un cliché, comme pâturage, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Sole, sale. Soleil, sel. Lumière et sel. Et Jésus, il en reste aux évidences. Il ne va pas chercher midi à 14h. Si le sel ne sale plus, ça nous semble aberrant. Mais si la lumière est mise sous un seau, c'est tout aussi aberrant. Alors, on va en rester aux évidences. Le sel et la lumière ont une caractéristique commune. La lumière met en valeur ce qu'elle éclaire. Grâce à la lumière, je vois les choses. Quand vous entrez dans une pièce sombre, vous allumez, l'ampoule s'allume, et là, vous voyez ce qu'il y a dans la pièce. Ceux qui sont non-voyants, la lumière, ça ne leur sert strictement à rien. Ils voient avec leurs mains. Les choses sont là, mais la nuit, vous ne les voyez pas. Il faut que la lumière les rende visibles. Ainsi, ce n'est pas la lumière que vous voyez, mais ce sont les choses qui sont éclairées grâce à la lumière. Grâce à la lumière, eh ben, on peut voir tout ce qui nous entoure. Et pour le sel, ben, c'est la même chose. Alors, je vous ai dit qu'on allait rester aux évidences, hein. Quand vous cuisez des pâtes, c'est un Italien là qui vous parle, hein. Si vous ne mettez pas du sel, du gros sel, hein, au début, avant de cuire les pâtes, eh ben, les pâtes n'ont pas de goût. Alors, vous pouvez en rajouter après, hein. Quand on a une assiette avec une nourriture qui nous semble fade, on ajoute un peu de sel, bien dosé, et ça relève le goût du plat. On ne sent pas le goût du sel, hein. On sent le goût de l'aliment grâce au sel. La lumière et le sel mettent en valeur les choses, leur couleur, leur saveur. Elles ne se mettent pas en valeur elles, mais elles mettent en valeur les autres. Et quand le sel et la lumière prennent trop de place, ça devient un désastre. Ça vous est déjà arrivé de manger un plat trop salé. On ne sent plus le goût des choses. On ne sent que le sel. C'est immangeable. Et quand il y a trop de lumière, par exemple, quand vous retravaillez vos photos à l'ordinateur, hein, et que vous ajoutez de la lumière, il y a un moment, on ne voit plus rien. Quand il y a trop de lumière, on est ébloui. On devient aveugle. Le sel et la lumière ne doivent pas s'imposer pour eux-mêmes, mais ils doivent mettre en valeur les autres. Répondre aux besoins pour les autres, pour qu'ils puissent exprimer leur valeur, pour qu'ils puissent exprimer leur saveur. Alors voilà pourquoi Jésus a pris ces deux éléments, le sel, la lumière, pas l'air, pas la terre. Et ça, c'est la deuxième chose que je retiens de la parole de Jésus. Nous sommes sel et lumière pour répondre aux besoins des autres. C'est le rôle que nous avons à tenir dans ce monde, sur cette terre. Et les autres, dit Jésus, verront le bien que vous faites. Le bien que l'on fait, c'est de faire du bien aux autres. Les mettre en valeur, en saveur, tous ceux qui nous entourent. Alors nous sommes lumière. Là, je sais qu'il y en a qui ont des doutes sur le fait d'être des lumières. Hein. Lumière, comme les projecteurs dans les musées qui éclairent les tableaux, qui éclairent les statues. Et quand un éclairage est bien fait, il met en valeur ce qui l'éclaire. Il fait ressortir la beauté de ce que l'on regarde. Alors vous allez me dire, mais concrètement, pour nous, comment ça se traduit? Comment on fait? On n'est pas des ampoules. Non, mais on a un visage. Nous avons tous un visage et nous avons un regard. Voilà la lumière que l'on peut projeter sur les autres. Luc, dans sa version sur le texte concernant la lampe, il rajoute ceci. Hein, « Les yeux sont la lampe de ton corps. Quand tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais quand tes yeux sont malades, ton corps est dans la nuit. » Le regard que l'on va poser sur l'autre va la mettre en valeur. Alors pour comprendre l'image de la lumière, j'ai besoin du sel. Nous sommes le sel. Quand un plat est trop salé et qu'on mange, vous imaginez, vous êtes dans la rue, vous croisez une personne, et au moment où vous la croisez, comment elle va réagir? Alors ça fait sourire, combien de fois j'ai vu ce regard sur certaines personnes? Est-ce qu'on les met en valeur en les regardant comme ça? Depuis que je travaille... Oh, c'est le bazar ici, hein. Depuis que je travaille à la Fondation John Bost, j'ai enfin compris, j'ai mis quatre ans à comprendre quand même, hein. J'ai enfin compris ce que j'avais observé, mais que je n'arrivais pas à expliquer. Alors je suis pasteur d'une catégorie de personnes que l'on catalogue de polyhandicapés. Alors le polyhandicap, c'est pas forcément ce qu'on rencontre le plus souvent. Le point commun de toutes les personnes polyhandicapées, c'est qu'il y a un problème qui est cérébral. La conséquence de cet unique problème, enfin, qui est lié au cerveau, c'est qu'il a des répercussions multiples et diverses, très variées. Alors c'est pour ça qu'on dit polyhandicap, mais un polyhandicapé, ce n'est pas quelqu'un qui a plusieurs handicaps. C'est quelqu'un qui a un problème cérébral et il y a plusieurs conséquences. Les personnes dont je suis le pasteur, il y en a qui sont en lit avec roulette. Il y en a qui ont des difformités, un certain nombre d'ailleurs, hein, puisque l'évolution ne s'est pas faite normalement. Un certain nombre des personnes ont des sondes. Des sondes, ça veut dire qu'elles sont nourries par le ventre, directement, on les branche avec différentes poches de repas. Et les capacités mentales, elles vont d'un extrême à l'autre. Par exemple, il y a un résident Il est dans un lit, en permanence, avec son bras qui dépasse du lit, donc le lit prend la forme de son corps aussi, et il bouge les yeux principalement. Mais il comprend tout. Quand on parle, il comprend tout. Alors, il ne communique pas, sinon on arrive à communiquer avec lui. Mais intellectuellement, il a la même intelligence que vous. Toutes ces personnes polyhandicapées, toutes sont vivantes. Je dirais, ce sont des bons vivants, même s'ils ne vivent pas bien. Ce sont des bons vivants. Malgré les handicaps, malgré les souffrances, malgré les douleurs, pour moi, ce n'est pas la même chose, ils ont choisi la vie. Ils ont choisi la vie. Chaque jour, depuis des années, il y a des résidents qu'on enterre, ça fait 80 années qu'ils sont là à la Fondation. Ils ont choisi la vie alors qu'ils vivent dans une société, dans un monde qui voudrait les voir morts et qui cherche à les éradiquer par la médecine, si possible. Avec plusieurs d'entre eux, on se cherche. Alors c'est vrai que je suis assez cynique, mais eux, ils sont aussi cyniques que moi. On se cherche et on rigole ensemble. On passe des moments vraiment formidables ensemble. Tout simplement parce que c'est la première église où je peux être moi-même. Parce qu'eux, ils sont eux-mêmes. Ils n'ont pas de filtre. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on voit que les valides, alors j'utilise le mot valide dans le sens de validisme. Alors vous chercherez sur votre téléphone ce que c'est que le validisme. Quand on voit que les valides râlent dès qu'il faut porter un masque, c'est bon, je respirerai. Je vais vous emmener dans le pavillon de Pénuel, vous allez voir ce que c'est d'avoir du mal à respirer. Et là, j'ai compris que c'était le regard des professionnels, le regard des professionnels porté sur chacune de ces personnes accompagnées et soignées. C'est ce regard-là qui fait toute la différence. Elles sont vues comme des personnes, et pas comme des monstres. Souvenez-vous, là aussi, peut-être pour les plus anciens, d'Elephant Man. À l'époque, on appelait ça des monstres, les monstruosités. Elles sont mises en valeur. Nous sommes à l'écoute de leurs besoins. Et chaque besoin est pris en considération. Ce sont des êtres humains dépendants et vulnérables comme tous les autres, comme chacun de nous, créés en image de Dieu. Nous sommes sel et lumière du monde. Savoir mettre en lumière l'image de Dieu qui est chez l'autre. Savoir mettre en valeur, la saveur que chacune, chacun porte en elle, en lui. Si la lumière n'éclaire pas, si le sel ne sale pas, littéralement, dans Matthieu, il est écrit qu'il devient fou. Le sel devient fou. Il perd la raison. Il perd sa raison d'être. Il perd son être. Et il est perdu. Et il devient inutile. Voilà ce que c'est qu'une vie inutile. C'est une vie qui n'a plus de saveur, qui n'a plus de valeur. Des chrétiens qui perdent leur raison d'être, qui deviennent insipides, qui deviennent éteints. Alors je vais terminer avec une citation d'une célébrité locale et global, selon sa propre formulation. Alors, il ne disait pas de lui, ça de lui. C'est Jacques Ellul. Et puis il y en a certains, je pense, qui vont enfin comprendre pourquoi votre bibliothèque s'appelle Présence au monde. Vous allez avoir une révélation ce matin. C'est son premier ouvrage, Présence au monde moderne. Ça commence avec l'image du chrétien qui est celle de la terre, lumière du monde. Et il ajoute aussi « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Ça, c'est le troisième élément. Je vais lire un passage qui se trouve dans ce livre. Hop, si je le retrouve, voilà. Nous sommes mis par Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas dit Jacques Ellul, il était de Pessac. Hein, c'est pour ça que je dis que c'est une gloire locale. Il était à Pessac. Nous sommes mis par Jésus-Christ en présence de la fonction particulière du chrétien. Et il ne peut pas y en avoir d'autre. Il ne peut pas être autrement. Il n'a pas le choix. Et s'il n'est pas ainsi, il ne remplit pas son rôle. C'est une trahison à l'égard de Jésus-Christ, mais aussi à l'égard du monde. Il peut toujours s'évertuer aux bonnes œuvres et se dépenser en activités pieuses ou sociales. Cela ne signifie absolument plus rien. S'il n'accomplit pas la seule mission dont il a été chargé particulièrement par Jésus-Christ et qui est d'être d'abord un signe. Ce signe, c'est être lumière du monde, celle de la terre. Ça, ça a été écrit en 1948. 1948, c'est 3 ans après la Deuxième Guerre mondiale, après l'Allemagne nazie qui voulait éradiquer toutes les personnes handicapées. Être signe, être celle et lumière du monde. Amen.